C'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes.
You are fake news.
Hello. Et ben voilà, il est 9h40 sur France Inter. C'est parti pour un nouvel Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Ilis Ramirez Sanchez Di Carlos, le chacal, fils de la grande bourgeoisie vénézuélienne, élevé par son père dans le dogme communiste le plus strict. Il ralliera la cause palestinienne et deviendra l'un des pionniers du terrorisme international. Sa trajectoire met en lumière les liens entre groupuscules marxistes et les débuts du djihadisme, entre pays de l'Est et Moyen-Orient, plus tard entre l'extrême droite antisémite et la cause arabe. Mais l'histoire de Carlos est aussi celle d'une dérive faite d'ego, de fric et de folie. L'homme a été condamné à perpétuité pour 3 crimes de sang commis en France. Dans le film que France 2 diffuse ce soir à 23h30, il reconnaît sa participation à des opérations pour lesquelles il n'a jamais été jugé.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
4 années durant, vous rencontrez Carlos dans sa prison de Poissy. Bonjour Sophie Bonnet.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, votre livre « Salutations révolutionnaires » vient de paraître chez Grasset. Vous avez raconté récemment dans le 7h50 de France Inter les relations complexes, perverses qui se tissent avec cet homme, incarcéré depuis 25 ans. Mais vous avez également signé un documentaire avec votre confrère Christophe Bouquet dans lequel vous retranscrivez la voix de l'ancien terroriste. C'est son récit à lui qui nous intéresse ici ce matin. On va y venir dans quelques minutes. D'abord Xavier Delaporte. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Comme chaque mardi matin sur France Inter, la fenêtre, elle s'ouvre sur quoi ce matin?
Eh bien Sonia, on a appris il y a quelques jours que Netflix allait encore innover d'ici peu à l'occasion de la 5e saison de Black Mirror, la série britannique qui imagine les effets de la technologie dans un avenir proche. Netflix a décidé de proposer aux spectateurs de choisir la fin des épisodes entre plusieurs possibles. Donc il s'agit d'instaurer une forme d'interactivité qui avait déjà été expérimentée par Netflix, notamment avec des programmes pour enfants. Alors on peut faire plusieurs lectures de cette initiative qui ne sont pas exclusives les unes des autres. D'abord, ça permet de régler une question éditoriale. Au départ, la série Black Mirror était produite par la chaîne britannique Channel 4 et présentait un avenir technologique au mieux mélancolique, au pire très flippant. Quand Netflix a repris la production, les morales des épisodes sont devenues plus positives, ce qui a fait débat parmi les spectateurs, certains considérant que la série perdait de son intérêt, de son mordant. Alors proposer des fins différentes, c'est un moyen de ne pas se positionner sur la couleur qu'on veut donner à notre avenir technologique. Peut-être qu'on peut voir là une forme de lâcheté intellectuelle de la part de Netflix, consistant à laisser au public la responsabilité de ce qui se pense.
Ça commence bien.
Deuxièmement, cette opération est interprétée par les commentateurs comme une intégration de la culture du jeu vidéo dans la fiction. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est le joueur qui manipule son personnage et fabrique son destin. Pourquoi ne pas faire la même chose dans la fiction? Il y a un terrain d'expérimentation tout à fait passionnant, j'en conviens. Sauf que le jeu vidéo, Mathieu Triclot le rappelait brillamment dans Philosophie du jeu vidéo, ce n'est pas simplement décider de ce qu'on fait faire à un personnage, c'est surtout une interaction physique avec la machine qui passe par les doigts, qui passe par les mains, qui passe par le corps, par l'œil. En comparaison, l'expérience proposée par Netflix depuis son canapé risque d'être très pauvre. Une autre lecture qu'on pourrait faire de cette initiative touche à ce qu'elle approfondit la distinction entre anciens médias et nouveaux médias. En effet, qu'est-ce qui distingue la télévision d'une plateforme de distribution de vidéos comme Netflix? C'est la question du choix. Alors que la politique de la télévision reste bon an mal an une politique de l'offre, le client Netflix peut choisir parmi une multitude de contenus, il choisit quand il regarde, comment il regarde, etc. En laissant décider de la fin qu'il accorde à l'histoire, on approfondit encore cette distinction. La télévision seule permet dans des programmes de télé-réalité où les téléspectateurs votent, mais ça reste collectif, c'est-à-dire qu'on peut se faire imposer le vote des autres. Là, c'est complètement individuel, rien ne nous est imposé par personne. Et c'est là qu'on en arrive à la logique de la personnalisation. Netflix personnalise le visionnage des séries et des films, on le sait. Mais avec des fins alternatives, on franchit une étape supplémentaire puisque l'objet lui-même s'adapte au goût du client de Netflix. Et on pourrait tout à fait imaginer que bientôt, la plateforme choisisse la fin directement pour moi, puisqu'elle connaît très bien mes goûts de visionnage.
Oui.
Si tant est...
Algorithme oblige.
Si tant est que ce type d'initiative se développe, ça pose une question sur la capacité de créer du récit commun. Si on n'a pas vu la fin du même film, ou la même fin du film, la même fin de la série, comment on va en parler ensemble? Comment on va l'interpréter? Comment ça va nous servir à nous construire? Bref, il me semble que ça relève d'une incompréhension assez fondamentale de ce à quoi sert la fiction. Personnellement, j'ai pas envie qu'on me demande de choisir la fin d'une histoire. En matière de fiction, je jouis de me soumettre à l'autorité. Et donc, je me permets ici solennellement, ce matin, de prédire l'échec total de cette initiative.
C'est vrai ça. Comment on va s'engueuler à la sortie du cinéma?
Eh ben, sur les choix, c'est encore pire, quoi.
Merci beaucoup, Xavier. La fenêtre de la porte est à réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Les mots de Carlos Le Chacal dans son parloir de la prison de Poissy, à l'image des séquences d'animation et la voix d'un comédien.
J'ai compris ton petit jeu la fois où t'es venu en jupe. Tu faisais ta coquette, mais je suis pas tombé dans le piège. J'ai vu clair. Tout ça, c'est dirigé par les services. T'as eu ton parloir parce qu'ils veulent des renseignements sur moi.
Extrait du film Face à Carlos qui sera diffusé ce soir sur France 2. Sophie Bonnet, que vous réalisez avec Christophe Bouquet, Les femmes, la séduction, on vient de l'entendre. Cet homme a été écouté et traqué par les services secrets de nombreux pays. 25 ans après son incarcération, il s'imagine toujours au centre du jeu.
C'est quelqu'un qui n'a pas accepté sa chute. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même les petits faits de sa vie restent pour lui forcément des manipulations des services, parce qu'il n'a jamais accepté le fait qu'il puisse être un simple papy en prison.
Quoi, et ses rapports avec vous, qui aussi toujours, on l'entend justement dans cet extrait très bref, entre la confiance, une forme de, on va dire, d'amitié, la manipulation de sa part et l'idée d'être manipulé par vous.
C'est très complexe, effectivement. C'est des relations qui se sont mises en place durant 4 ans, avec voilà beaucoup de variations. Il y a eu beaucoup de choses, enfin qui ont fait qu'on est devenu effectivement proche d'une certaine manière. Il a fini par raconter des espèces de trous noirs de son existence, par exemple les années qu'il a passées sous le régime d'Hafez al-Assad, où ça c'est des choses qui étaient jusqu'à maintenant très peu connues. Donc c'est, il y a eu une espèce de période de gloire et de chute. Pour lui c'était des mots, des paroles qui ne sortiraient pas du parloir. Donc c'est effectivement complexe, et il s'est livré parce qu'il pensait pas que je raconterais tout ça de cette manière-là. C'est quelqu'un qui s'est rapidement imaginé que j'étais une recrue. Donc il se pose encore aujourd'hui, se vit encore comme un chef d'armée. Donc il a des stratégies plus ou moins fumeuses pour opposer les différentes personnes qui viennent le voir. Et moi, je faisais partie de cette stratégie-là. Je devais l'aider dans son esprit à écrire sa légende, écrire sa gloire. Voilà. Donc,
Attentat à Londres, attentat à Paris à la voiture piégée devant les sièges de différents journaux, grenade en 1974 au drugstore de Saint-Germain-des-Prés. Il est balancé par un membre du Front palestinien que les policiers amènent au domicile de Carlos.
Quand tu le vois, t'es furieux ?
Mais non, pourquoi tu veux que je sois furieux ? Je me lève, je vais dans les toilettes, je prends mon flingue, je reviens, le mec de la DST fait un geste, j'ai l'impression qu'il va tirer. Je tire en premier.
Tu te dis quoi ?
Je me dis rien, faut garder son sang-froid. C'était la guerre. Et mon carbal qui s'est mis à genoux, il pleure. C'est lamentable. Je le flingue.
Il fallait, Sophie Bonnet, trouver une forme de mise en scène pour mettre à l'image ces entretiens, puisque la caméra vous était interdite au parloir. Vous n'aviez avec vous qu'un carnet et qu'un stylo. Le comédien que vous avez dirigé ne dit pas simplement les mots de Carlos. Vous y avez mis également de la violence, vous y avez mis de la toute-puissance, vous avez mis une absence totale de regret et d'empathie. Vous avez mis cela dans la voix de celui qui interprète Carlos.
Ça, c'était notre grand défi avec Christophe Bouquet. Comment raconter la parole de Carlos, comment retranscrire ses parloirs. Donc effectivement, on a choisi d'utiliser ce processus-là, la rotoscopie. Donc les parloirs ont été remis en scène avec les mots exacts de Carlos. Et effectivement, Laurent Fernandez, le comédien, est un Carlos plus vrai que nature en termes de...
Mais plus vrai au regard de vos souvenirs. C'est-à-dire qu'il a fallu transcrire aussi ce que vous avez ressenti face à ce personnage dans cette pièce minuscule. On le voit se lever, s'approcher de vous, on voit son visage qui se contracte, c'est ça que vous avez voulu traduire.
Il est resté encore aujourd'hui un tueur sanguinaire, c'est quelqu'un qui a un plaisir physique à tuer, et ça, encore aujourd'hui, malgré cette chute, cette déchéance, il lui reste ça, il a une espèce d'orgasme de jouissance quand il évoque les gens qu'il a tués. Donc, effectivement, et ce qu'on vient d'entendre à l'instant, là, les meurtres de la rue Toulier, effectivement, c'est ce qui va le lancer dans cette espèce de dérive complètement folle, et encore aujourd'hui, il revit ça de manière physique quand il le raconte. Et ça lance toute sa trajectoire. Ça.
Bombe dans le train Paris-Marseille, bombe rue Marbeuf, c'est l'histoire d'une police française dans les années 70, pas du tout au fait des factions armées rouges et du terrorisme arabe. C'est l'histoire d'une justice française dans les années 80 qui négocie avec Carlos.
C'était un bon deal. Mais putain, ils nous ont trahis. Et Mitterrand a joué double jeu dans cette affaire. Alors la France a payé. Ah ouais. La France a bien payé.
Bombe dans le train Paris-Marseille, bombe à la gare Saint-Charles. La France a-t-elle commis des erreurs, Sophie Bonnet, au terme de ses 4 ans d'enquête? Le film est par ailleurs émaillé de beaucoup d'archives et de témoignages de juges, de policiers et d'avocats.
Ça a été très ambivalent parce qu'à la fois, effectivement, on avait peur de Carlos, donc il y a eu des espèces de tractations qui ont eu lieu. Et en même temps, c'est aussi l'histoire d'une traque sans relâche. C'est quelqu'un qui a été traqué pendant plus de 20 ans et on a été le chercher au Soudan à un moment où finalement plus grand monde n'en voulait. Donc la France a eu une longue mémoire et on a fini par rattraper Carlos. Mais c'est vraiment l'histoire d'une obsession française aussi.
D'une obsession, mais également d'erreurs, d'hésitations. On entend bien hein, le chef du raid qui dit au moment d'Orly j'aurais pu l'abattre, j'aurais pu le neutraliser, à ce moment-là on m'a dit non. On entend bien un juge reconnaître que aujourd'hui c'est une affaire d'État, on lui a demandé de se coucher devant Carlos, en tout cas devant ses complices.
Le commandant Proutot, oui, il regrette encore aujourd'hui effectivement qu'on ne l'ait pas laissé arrêter Carlos. Effectivement, après on peut pas refaire l'histoire, mais on aurait eu la possibilité de l'arrêter à plusieurs reprises. Après c'était vraiment une autre période du terrorisme, c'était le tout début du terrorisme international. Et à l'époque, ce qui prévalait, disons, c'était plutôt l'idée de se débarrasser des problèmes en les envoyant chez les voisins. Il n'y avait pas de coopération. C'est vraiment une autre époque. C'est vraiment la préhistoire du terrorisme, en quelque sorte.
C'est ça. Et il me semble que moi, pour ma génération, c'est une forme de chaînon manquant, à la fois dans la trajectoire idéologique du terrorisme, mais en même temps, la façon dont la France s'est construite vis-à-vis du terrorisme et dans toutes les strates de la société.
C'est un parcours complètement fou parce que c'est vrai que Carlos, il est passé de l'ultra-gauche, de ce terrorisme d'ultra-gauche à l'islam. Enfin, c'est vraiment complètement unique et c'est vrai qu'il fait vraiment la jonction entre ces deux formes de terrorisme.
Alors justement, on va en parler, mais à la fin du film, voici quelques-unes des choses qu'il vous révèle.
Et la grenade du drugstore, alors qui est-ce qui l'a lancée?
Mais c'est moi, évidemment que c'est moi. Il n'y a pas de preuve. Personne n'avait.
Et le coup de feu contre le vieux safe?
Le vieux safe à Londres. Il n'y avait aucun témoin. Il méritait la mort. J'ai juste exécuté la sentence. Les bombes devant l'arche et les journaux, j'ai tout préparé tout seul. On n'avait pas d'argent. J'ai tout fabriqué moi-même. J'ai bricolé comme j'ai pu.
Et l'attentat d'Orly?
On a travaillé pendant 6 mois pour préparer. J'y allais tous les jours à Orly. J'avais tout repéré.
Précaution en ouverture du film diffusé ce soir sur France 2. Une enquête journalistique ne peut se substituer à une enquête judiciaire, Sophie Bonnet.
Alors effectivement, au moment où il m'avoue ça, dans son esprit, il ne prend pas de risque parce qu'il a le sentiment que je suis sous sa coupe. Et de toute façon, il ne m'avoue que des faits qui ont déjà été jugés ou qui sont prescrits. Donc voilà. Après, moi, il y a d'autres faits pour lesquels j'ai moi le sentiment qu'il est lié, pas forcément coupable lui directement, mais qu'en tout cas, il a donné des ordres. Par exemple, l'attentat du Grand Véfour. Cela, il prend bien garde de ne pas les avouer. Après, effectivement, il est persuadé que ce qu'il m'avoue ne va pas sortir de la centrale. Ce sont des faits qui sont anciens et il est persuadé que je ne vais rien dire.
Alors le plus passionnant dans ce film, c'est la dérive de cet homme. C'est la dérive de cet homme et c'est une dérive qui se passe à deux niveaux. D'abord, il y a une forme de dérive morale. C'est un homme qui est complètement emporté par son ego, par son sentiment de toute puissance. C'est quelqu'un qui ne se cache jamais, malgré la traque que vous venez d'évoquer. C'est quelqu'un qui est sans cesse débordé par son goût du luxe, par son goût des femmes. C'est quelqu'un qui cherche de l'argent en permanence, au point de devenir, dans les différents pays où il s'enfuit et où il est recueilli, une forme de mercenaire.
Absolument, c'est une histoire d'une d'une longue descente comme ça, et en permanence, ça lui vient vraiment de son enfance. Il a à la fois une espèce de volonté d'être un révolutionnaire, et en même temps, il a un amour du luxe, un amour de l'argent, parce qu'il a grandi de cette manière-là, il a été éduqué comme ça, et ça, c'est vraiment les deux parties de sa personnalité qui sont complètement imbriquées et qui vont le conduire à sa chute, parce qu'effectivement, même quand il se cache à l'Est, au Soudan, etc., il ne peut pas s'empêcher de jouir de la vie, de faire la fête. Enfin, au Soudan, il est traqué par le service du monde entier, il fait la fête, il est dans tous
et
les...
Et lui, le communiste d'obédience marxiste, lui, il a un profond mépris pour tout ce qu'il appelle les clochards, c'est-à-dire les gens sales, les gens pauvres, les gens qui...
Mal habillés. Encore aujourd'hui, en prison, il est toujours parfaitement vêtu. Il tranche complètement avec le reste de la population carcérale, il est toujours habillé à quatre épingles.
Il trouvera refuge dans les pays de l'Est, il trouvera refuge également en Syrie, et ça aussi, c'est absolument passionnant, les rapports entre Carlos et le Moyen-Orient. En Syrie, il côtoie notamment d'anciens nazis, dont le banquier français François...
Suisse.
Dont le banquier suisse François Genoux, édifiant.
Genoux, avant de le rencontrer, j'étais un peu inquiet. Je me disais, putain, c'est un nazi. Et pour moi, les nazis, c'était des monstres, des violeurs. Mais au FPLP, on entendait dire qu'il y avait des nazis qui étaient des gens très bien. Et finalement, avec Genoux, on est devenus très amis. Il copiait Hitler. Il était végétarien, il buvait pas une goutte d'alcool. Il répétait « Je vis comme mon Führer ».
Sous l'étendard d'une internationale antisioniste et antisémite, il y a des liens entre marxisme et pays arabes, entre la cause communiste et la cause arabe. Il se noue à Damas des liens que l'on connaît mal et que l'on soupçonne pas nécessairement. D'anciens nazis sont accueillis par la dynastie El-Assad. On vient d'entendre parler de François Genoux. Il y a également Alois Brunner qui est à Damas, qui a formé à la torture des cadres du régime nazi, qui est en lien avec Carlos lorsqu'il y vit.
Absolument, c'est complètement fou parce que c'est effectivement un passage de l'extrême gauche à l'extrême droite qui ne semble, enfin que lui arrive à justifier de manière tout à fait personnelle, disons.
C'est ça, il y a la dérive morale et puis il y a la dérive idéologique, c'est-à-dire plus il se vend pour l'argent, plus il s'éloigne de ses fondements idéologiques et à la fin tout se mélange.
De toute façon, à Damas, il est vraiment pris dans une souricière, c'est une espèce de trou noir. Les 10 années qu'il passe à Damas, il est vraiment à la merci de la moindre occasion pour gagner de l'argent. Et effectivement, il va nouer des liens avec un certain nombre de nazis qui vont l'aider, donc des liens financiers, logistiques, etc. Et il arrive, là c'est vraiment du mercenariat pur et dur, il est tueur à gage, disons, pour le régime Al-Assad, il fait ce qu'on lui demande, et puis voilà, il fait du business aussi avec les personnes qui sont là, et c'est vraiment une espèce de marécage absolu, quoi. C'est là.
Vous me disiez, avant qu'on démarre cette interview, que la figure de Carlos est restée très prégnante au Moyen-Orient.
Absolument. Ça a été vraiment une de nos grandes surprises avec Christophe Bouquet quand on a tourné au Moyen-Orient, c'est-à-dire que Carlos, en France, tout le monde connaît son nom, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est mort, il est complètement sorti de l'actualité, et bien peu peuvent dire ce qu'il a fait.
Absolument.
Alors, au Moyen-Orient, c'est pas du tout ça. Il est encore très très présent dans l'inconscient collectif.
C'est un héros.
C'est un héros pour beaucoup de gens. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de lui. On a eu beaucoup de mal à trouver des gens qui acceptaient de parler. Mais enfin, c'est vraiment une figure qui reste très très forte. Carlos le Chacal, c'est pas du tout la même situation qu'en France.
Merci beaucoup, Sophie Bonnet. 23h30 face à Carlos le Chacal.
23h05
oui. Oh mais quelle bonne nouvelle pour une fois qu'un infrarouge n'est pas diffusé trop tard. 23h05, ne manquez pas le début du film face à Carlos le Chacal sur France 2. C'est la fin de l'émission.